Interview. 1. Interview.
Okay, the bell.
Interview. L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Le week-end dernier, le 28 et 29 mars à Recoubo au gîte de Roquebelle, a eu lieu une séchine, une retraite organisée par le Dojo Zen de Die, dirigé par Luc Boussard et qui est animée par Edouard Bagrabski. Ces deux personnages hauts en couleur sont ici même dans le studio de RDWA, non pas pour en rendre compte mais plutôt pour avoir avec votre humble serviteur une petite causerie autour du feu, autour de considérations hautement équivoques comme la notion de désir par exemple. Sachant que Edouard ici même a exprimé avant même d'entrer dans ce studio le fait qu'il avait énormément de désir depuis qu'il était arrivé à Die. En tout cas, je vous dis bonjour à tous les deux.
Bonjour Louis.
Et bonjour à ceux qui nous écoutent.
Bonjour aux auditeurs et aux auditrices.
Alors Edouard, si j'ai bien compris, si tu as mené cette chine, c'est que tu es habilité à le faire, tu es donc un moine zen de haute tenue.
De haute tenue, je ne sais pas si on peut dire ça, mais oui, je suis habitué et habilité à le faire. J'ai la possibilité, souvent, plusieurs fois dans l'année, d'animer ce qu'on appelle des sessions, des stages en gros. Et puis je suis venu le faire ici parce que je suis un camarade et un ancien co-pratiquant du zen avec Luc.
C'est du boulot, c'est des responsabilités quand même d'assumer une troupe de méditants déchaînés.
Oh, déchaînés, je sais pas, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, oui, c'est du boulot. Faut leur donner un petit peu ce qu'ils attendent, c'est-à-dire une qualité d'enseignement qui tient la route et puis qui leur convient et qui donne un petit peu l'élan à tout le monde et l'envie de pratiquer.
Je disais déchaîné au niveau du mental, hein, pas au niveau...
Ah non, mais ils sont pas déchaînés longtemps. On connaît la méthode un peu pour arriver à les calmer. Calmer les pensées, calmer les désirs, calmer l'ambition, calmer la colère, etc. C'est un petit peu le but de pourquoi on se réunit, quoi.
C'est à coup de bâton, non, si je ne m'abuse dans le zen, non?
Non, rarement. C'est plutôt à coup de bâton d'encens.
De bâton quoi?
Des bâtons d'encens.
C'est-à-dire, j'ai pas...
Ben, vous savez, les bâtons qu'on allume et puis qui parfument la pièce, quoi, les petits bâtons d'encens.
Ah, les bâtons d'encens, je te prie de m'excuser.
Bon, après, c'est vrai qu'il y a le bâton dans le zen, on l'utilise pour frapper sur les épaules de temps en temps, mais très occasionnellement et quand ça s'avère nécessaire. C'est-à-dire quand on est trop endormi ou quand on a trop de pensées qui viennent nous déranger pendant le cours de la pratique. Hein. Les émotions, les sentiments, la colère, quand ça tourne un peu trop autour de tout ça... C'est un peu comme des points d'acupuncture et on vient les stimuler.
Ça s'est bien passé. Je crois que vous étiez 25 méditants, c'est ça à peu près?
Oui, à peu près, entre 25 et 30, je pense.
La canalisation d'un groupe de personnes qui sont en recherche d'elles-mêmes et de calme intérieur se fait aussi aisément que possible.
Ben oui. Vous savez, le zen, ça consiste à s'asseoir et à rester un peu immobile et tourner le regard à l'intérieur. Donc c'est au niveau de l'organisation, c'est pas bien compliqué. Hein. On est dans une pièce, rassemblés, réunis, tout le monde est assis et pratique un peu sa concentration sur lui-même à l'intérieur. Et puis moi, je me contente de visualiser un petit peu l'ensemble de la pièce. Et puis quand c'est l'occasion et le moment, ben je donne un petit enseignement, quoi. Je donne des recommandations d'abord pour expliquer comment ça se déroule, une séance et la pratique. Donc autour de la posture, de la respiration, comment fonctionner avec l'état d'esprit qui se passe en ce moment par rapport à ce qu'on vit, les pensées, tout ce qu'il y a dans la tête, quoi. Et puis après, je délivre un petit enseignement un petit peu plus philosophique sur le zen.
En même temps ou pendant des plages séparées?
Non, ça se passe de manière naturelle. Quand je sens que c'est le moment de redresser un petit peu les postures, ben je délivre un enseignement sur la posture, des indications. Puis quand je vois que la posture est plutôt bien prise, que tout le monde est bien concentré, là, ben voilà, si j'ai de l'inspiration, je me lâche et puis je donne un enseignement. Ça vient comme ça vient, quoi. Sur l'impermanence, sur l'interdépendance, sur la vie, l'écologie, les rapports sociaux, enfin ça vient et voilà, c'est l'intuition qui me guide un peu.
Alors en introduction, je plaisantais à moitié, mais comme dit-on, il n'y a pas de fumée sans feu. Tu es entré en disant « j'ai envie de faire tellement de choses dans mon bref passage à dit ». Ça m'a rappelé tout ce qu'on peut dire sur la lutte contre le désir dans le bouddhisme. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le désir ? Est-ce qu'il vaut mieux l'intégrer plutôt que de le circonscrire ?
Le désir, c'est un petit peu ce qui est le moteur de la vie, quoi. C'est ce qui nous apporte et qui nous guide. Et si on a une bonne façon d'aborder les désirs, ça se passe raisonnablement dans de bonnes conditions. Puis si on se fait envahir et déborder, dépasser par le désir, ça nous entraîne un peu dans des perspectives qui peuvent nous emmener dans des situations difficiles et compliquées. Mais si c'est bien géré, non, au contraire, c'est bien d'avoir des désirs et de savoir un peu canaliser, placer où son énergie dans des choses bien et intéressantes, quoi. C'est la vie, hein.
Ah, moi, j'avais cru quand même comprendre dans le bouddhisme Hinayana, quand même, il parle du fait que la cause de la souffrance vient du désir et que la façon de se sortir de la souffrance est de renoncer au désir. Alors peut-être qu'encore une fois, c'est une question d'école.
Mais là, je vois que j'ai affaire à un spécialiste. Là, il connaît le bouddhisme Hinayana, la philosophie sur les désirs. Oui, mais c'est pas tout à fait pareil. La perspective et la vision qu'on a dans le zen, c'est plutôt d'arriver à contrôler et sublimer les désirs, se servir de l'énergie des désirs, de savoir un petit peu comment l'aborder, plutôt de couper que de couper systématiquement. C'est un petit peu vraiment castrateur, ça, cette méthode. C'est un petit peu trop volontariste aussi. Mais nous, dans le zen, on a plutôt l'attitude qui consiste à observer et à savoir les mesurer. Jusqu'à quel point, à un moment donné, le vase va déborder ou pas déborder. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'arriver à gérer le truc de manière à ce que ça déborde pas, que ça empiète pas sur la qualité de la vie. Mais sinon, le désir, c'est quelque chose de moteur, hein. Il faut s'en servir et c'est ce qui nous amène à faire des choses et à créer.
Si je peux me permettre,
avec joie, Oluc.
Je citerai une phrase qu'aimait à répéter le maître qui nous a formés tous les deux, aussi bien Édouard que moi, maître Deshimaru. Il disait assez souvent, il répétait souvent, les grands bonneaux font les grands satori, c'est-à-dire les grandes illusions, les grands désirs font les grands éveils. C'est avec du désir qu'on crée de l'éveil, de l'illumination. S'il n'y a pas de désir, on n'a que des gens tièdes et on ne peut rien faire. C'est la matière qu'on travaille, le désir. Ce n'est pas quelque chose de pas bien, de péché, de condamnable. C'est la matière sur laquelle on travaille.
C'est une motivation, c'est une énergie avec laquelle il faut savoir se familiariser, mais pas se faire déborder, ni se faire s'en rendre esclave, quoi. C'est sûr que si on désire une femme et que cette femme-là, elle ne tient pas à être avec nous, si on s'obsède et qu'on s'acharne à vouloir la posséder, il va y avoir un conflit, quelque chose qui va se passer, ça va pas marcher, ça va pas s'harmoniser. Donc voilà, il faut savoir maîtriser, contrôler et savoir agir par rapport à tout ça.
Alors qu'est-ce que tu appelles savoir maîtriser, savoir agir et savoir contrôler ? C'est-à-dire quoi ? Et prendre conscience de cette obsession et de l'observer jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse dans un fond de pensée, comme un fond d'écran ?
Ben oui, il faut avoir la capacité d'avoir un petit peu, de pas être tout le temps au service de ses désirs. Il faut aussi être capable de pouvoir les contrôler. Sinon, on arrive à être esclave de soi-même et de ses propres désirs. Et là, comme je vous disais, ça nous entraîne dans des perspectives un peu compliquées qui peuvent déborder, nous amener un peu dans des espaces où après, on n'est plus capable de savoir gérer sa vie, quoi.
Non, mais ça, j'ai bien compris que c'était pas très bon de se faire déborder par ses désirs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le processus qu'emploie le zen, quelle méthode fait en sorte que ses désirs, sans les castrer, soient maîtrisables. Parce que c'est ce que tu as dit, contrôler, maîtriser. Ouais. Mais comment fait-on ? Qu'est-ce qui se passe ?
La chose est la suivante. Par exemple, par rapport à la méditation qu'on pratique, on voit la chose arriver, hein, un sentiment, une émotion, une pensée, un désir. On l'observe. Et donc, on voit un petit peu comment qu'on est constitué dans notre monde intérieur et on arrive à la laisser passer. Voilà, le point important, c'est de comprendre et d'être capable de lâcher prise. Nous, on est plus dans une attitude qui concerne le laisser passer. Dans la spiritualité, dans tout ce qui est un peu orientaliste, on parle de lâcher prise, mais en même temps, c'est un peu la même chose. Nous, notre maître, hein, il nous a appris à laisser passer les pensées. Alors que la plupart du temps, quand une pensée vient et qu'elle nous semble intéressante ou qu'on n'a pas envie de rester sur cette pensée, on l'évacue, on s'en débarrasse. Hein. Mais nous, ce qu'on fait dans le zen, c'est qu'on voit les pensées arriver et on est capable de laisser passer. On se fait pas enfermer ni absorber et on ne construit pas quelque chose comme des châteaux en Espagne, quoi. Et on a cette qualité, cette capacité de savoir laisser passer. Alors comment on fait pour laisser passer ? On se concentre sur la posture, on redresse la colonne vertébrale, on crée un bon équilibre dans le corps, c'est un travail sur le corps. Et ensuite, on se concentre sur la respiration. On adopte une respiration qui est un petit peu particulière. On va faire descendre l'expire dans le bas-ventre, tranquillement. Et on suit le rythme et le mouvement de la respiration. Et quand une pensée apparaît et qu'on voit qu'elle devient trop obsédante, qu'elle occupe trop de place pendant notre méditation, à ce moment-là, on fait référence aux ingrédients de la posture. C'est-à-dire ce que je vous disais, se concentrer sur une bonne attitude avec le corps, bien redresser, rééquilibrer tout ça, et un travail sur la respiration. Et on s'aperçoit qu'en agissant de cette façon-là, rapidement, la pensée décroît, elle passe et on s'en libère. Et c'est un processus donc libérateur. Et après, on revient à d'autres choses, d'autres pensées apparaissent, etc. Et on fait le même travail tout au long de la séance, jusqu'à un moment où on s'aperçoit que naturellement, les pensées passent sans qu'on s'y attache.
Alors, juste là où je voudrais réagir, c'est sur le rapidement. Quand tu dis, Edouard, oui, on l'observe et puis rapidement, ça passe. Si quelqu'un est mordu par une pensée, est-ce qu'elle passe à ce point rapidement ? Est-ce que ça peut, justement, ce qu'on appelle des obsessions, des marottes ?
Non, justement, des fois, ça bug, hein, et puis la personne, elle reste et elle passe toute sa séance avec quelque chose avec lequel elle va se débattre, avec lequel elle va être en conflit ou en difficulté. Quelqu'un qui, par exemple, a eu un phénomène qui est intervenu dans la journée, qui a pu être un phénomène où il aurait pu se mettre en colère ou ne pas avoir compris une situation ou un rapport humain qui s'est mal passé. Non, il y a des gens ou des personnes, et même moi, de temps en temps, il m'arrive de bloquer sur quelque chose qui s'incruste un petit peu dans mon espace méditation. Et puis, voilà, donc ça prend un certain temps. Moi, j'ai la possibilité, par rapport à l'expérience que j'ai, de savoir un petit peu la problématique et comment ça fonctionne. Donc, je me mets rapidement à faire ce qu'il faut. Mais quelqu'un qui a moins l'expérience, il va peut-être rester un certain temps ou peut-être même il va avoir des difficultés à se débarrasser des choses qui l'encombrent. Mais voilà, c'est pour ça que je suis là, c'est pour apprendre à faire le travail et comment ça fonctionne. Et c'est ce que j'essaye de délivrer comme message en venant ici. C'est mon job.
Un job à plein temps, rémunéré. Est-ce que tu es à une sécurité sociale aussi qui est attenante à cette fonction ?
Non, normalement, d'ordinaire, les personnes comme moi, elles ne sont pas professionnalisées, en tout cas pas dans le zen. Hein. Le fait est que les gens qui participent au stage, il y a un prix. Hein. Le prix, ça consiste à payer la location des bâtiments, à payer la nourriture, etc. Et quand il y a un bénéfice hein, sur le prix de l'ensemble de tous les stagiaires, on donne une participation à celui qui vient animer. Moi, on m'a payé le voyage, donc on m'a payé soit le train, soit l'essence si je suis venu en voiture. Et s'il reste encore un petit peu d'argent, à ce moment-là, on donne un petit, on appelle ça un foussé, un don. Donc j'ai reçu un don de la part de Luc, même si le dojo a été un peu en déficit par rapport au fait qu'on n'était pas suffisamment nombreux pour couvrir les frais. L'association du dojo Zen et du Zen Adi avait un petit matelas de sécurité d'avance. Et donc ils m'ont donné un petit cadeau, mais j'ai même pas encore ouvert l'enveloppe. Je ne sais pas si c'était un gros, un petit ou un moyen cadeau. On verra, ça sera la surprise. Hein.
En fait, tu ne fais pas ça, effectivement, pour...
Non, c'est plutôt une vocation qui n'est pas concernée trop ni par l'argent, ni par le pouvoir, ni par l'ambition de vouloir être un leader spirituel. C'est dans le cours de ma vie m'a amené à être dans dans ce rôle et dans cette situation-là. Mais au départ, j'étais un petit jeune débutant dans la pratique. Et puis après, au bout de 20 ans, 40 ans de pratique, je suis devenu quelqu'un qui enseigne et auquel on fait appel de temps en temps pour profiter de l'expérience que j'ai.
Justement, dans l'octuple noble sentier, il y a le mode de vie correct. Quelqu'un qui pratiquerait la méditation, mais qui aurait un mode de vie incorrect, aurait forcément
c'est pas compatible.
Un conflit intérieur, effectivement. Pour justement, peut-être pour s'élever, il ne faut pas avoir de... Enfin, s'élever, j'aime pas cette expression, mais en tout cas, pour être de plus en plus intégré, il ne faut pas être intéressé, faut pas que tu aies d'intérêt, toi, en tant que professeur, à gagner de l'argent par rapport à la méditation, par exemple.
Ben ouais, mais ça, c'est un thème et un des piliers principaux de la spiritualité et du zen, mais plutôt de la spiritualité en général, hein. On n'est pas attiré par le gain quand on fait ça. C'est plutôt un gain avec des mérites spirituels, des mérites de savoir que c'est plutôt dans le, c'est pas dans le monde matériel, ni dans les désirs, ni dans la possession qu'on va trouver la libération, quoi.
Néanmoins, on est quand même des êtres de chair et de sang, et tu possèdes peut-être éventuellement un modeste matelas sur lequel il y a un toit, voire avec une cuisinière à côté pour assumer ton modeste existence. Bah, peut-être as-tu besoin de quelques subsides quand même.
Ouais. Je vais juste te rassurer. Donc, dans le zen, hein, on n'est pas destiné au célibat et à la chasteté. Moi, j'ai une femme, des enfants, et bon, faut bien que je les fasse vivre, que je participe à la vie de ma famille. Donc, j'ai un job, j'ai fait toute ma carrière et toute ma vie à travailler. Bon, il y a eu des trous, hein, des périodes de chômage, des moments où j'ai plutôt été dans le zen quand j'étais célibataire, donc j'avais moins besoin de sous. Mais maintenant que j'ai une famille, oui, j'ai un travail, j'ai été intermittent du spectacle pendant très longtemps. Et puis maintenant, bon, j'ai malheureusement été malade, j'ai eu une grave maladie ces derniers temps, donc ça m'a un petit peu coupé un petit peu le... Disons que j'ai arrêté de bosser, quoi. Mais maintenant que je retrouve de la force et de l'énergie, oui, je me remets à avoir des activités, et puis je commence à reprendre l'enseignement du zen, et puis je vais commencer à retravailler, à retrouver des activités, quelque chose à faire, quoi. Mais oui, j'ai besoin, comme tout le monde, de payer mon loyer et d'aller faire mes courses. Je suis pas pris en charge par le temple ou par n'importe quelle organisation qui s'occuperait de gérer ma vie, quoi. C'est moi qui dois me débrouiller, quoi.
Voilà, parce que ça pourrait être une contre-indication à la méditation, c'est de devenir un pur esprit éthéré à peine de ce monde.
Ouais, non, mais
je pense que ce serait pas le but non plus de la méditation.
Le maître qui nous a enseigné, heureusement, il nous a appris à rester réaliste, et il nous demandait de pas devenir des moines professionnels, hein. Il tenait absolument à ce qu'on reste intégré dans le social pour pouvoir vivre comme n'importe qui, comme la plupart des gens, et comprendre donc la situation des gens en général, en règle générale, et de s'harmoniser avec le monde et le social.
Je renchéris un petit peu là-dessus. C'est vraiment une caractéristique de cette lignée, de la lignée de Deshimaru. Maître Deshimaru n'avait pas un grand respect pour les moines de temple, et il nous a toujours demandé d'être présent dans la vie familiale, la vie sociale, la vie professionnelle, ne serait-ce que pour diffuser et transmettre cet enseignement. C'est un enseignement pour les hommes, c'est pas un enseignement pour les anges ou pour des êtres éthérés, abstraits, hors de la vie. C'est vraiment un enseignement pour les hommes de notre époque, de maintenant.
Voilà, c'est pour un partage, c'est pas pour une élite. Et ce partage, il se fait en étant confronté à la vie quotidienne et au social, hein.
Et puis, je ne sais pas si vous connaissez cette petite phrase, il y avait eu un maître Kogi. Ça vous dit quelque chose, maître
Kogi? Maître Kogi.
Ben, c'est une tribu amérindienne qui était passée par la France, qui est assez spirituelle, avec son propre credo, etc. Ils avaient visité un certain nombre de centres en France, et il avait eu cette belle phrase en face d'un centre tibétain. Il n'est pas d'esprit sans terre. Il trouvait justement, sans vouloir critiquer qui que ce soit, qu'il avait l'impression que la spiritualité tibétaine, c'était il y a quand même 20-30 ans, quand c'était peut-être au tout début, était un pas très enraciné, quoi. Et on en rejoint à cette ne pas être coupé des réalités.
Voilà.
Que dire de plus, si ce n'est que c'est passionnant, alors, ce chemin de libération intérieure qui ne cesse jamais? Est-ce que vous avez l'impression, vous autres enseignants, d'approcher un but qui n'en est pas un, d'ailleurs?
Oui, moi, depuis que je pratique, c'est-à-dire depuis mes jeunes années, parce que j'ai commencé à pratiquer, à m'engager, à suivre cet enseignement quand j'avais à peu près 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 58 et je me suis jamais ennuyé. Ça m'a toujours été révélé comme étant quelque chose de moteur, d'intéressant et qui m'a animé tout au long de ma vie. Et on dit toujours dans le zen qu'on en est toujours à la moitié du chemin. Donc il me reste encore la moitié à faire. Alors je sais pas jusqu'à quand ça va m'amener. Mais oui, j'ai toujours eu un certain intérêt pour ça et ça m'a toujours motivé et passionné.
Il faut dire une chose, c'est important de le savoir. Édouard est un moine, un maître, extrêmement créatif. Il n'y en a pas beaucoup comme lui. Il a fait des choses qu'il n'y a que lui qui a fait, tu vois. Il a fait des sessions pèlerinages sur le chemin de Compostelle. Il a fait une session ambulante en Inde sur les pas du Bouddha. Tu vois, il est extrêmement créatif. Il déborde d'énergie et de créativité. C'est une de ses particularités.
Et tu es aussi un disciple, sans le savoir peut-être, de Zénon d'Élée.
Je connais pas.
Ben, c'est la fameuse parabole du gars qui envoie une flèche sur une cible. Et donc, mathématiquement, il est prouvé qu'on peut couper à chaque instant la distance qui sépare la flèche de sa cible en deux. C'est-à-dire que toi, tu es toujours au milieu du chemin.
Oui, par rapport à ce que je disais, le fait de pratiquer tout au long de sa vie, on n'en est toujours qu'à la moitié.
Tu connais quoi l'histoire de Zénon d'Élée? C'est assez rigolo. Moi, je ne la connais pas avec la flèche, je la connais avec une pierre. Zénon explique à ses disciples que la pierre n'atteindra jamais sa cible parce que à chaque fois qu'elle s'en rapproche, la distance est encore divisible par deux. Donc la pierre n'arrivera jamais. Et il y a un disciple qui prend une pierre, qui lui la jette à la figure et il lui dit « Celle-là, est-ce qu'elle n'a pas atteint sa cible ?»
Ouais, c'est un peu comme toutes les petites histoires dans le zen, les histoires avec de l'humour ou alors dans le soufisme avec des histoires remplies de sagesse, en toute simplicité, mais remplies de sagesse.
Et vous pratiquez, vous, justement, les koans et autres blagues spirituelles?
Ça nous arrive, oui, d'avoir des petits koans, mais dans le bouddhisme zen, il y a deux écoles. Il y en a une école où on est vraiment concentré sur le koan. Le maître donne une question, une énigme, et le disciple, pendant l'assise et la méditation, il va réfléchir, il va essayer de comprendre et de trouver la solution à cette énigme. Et nous, on pratique le zen d'une autre école qui s'appelle le zen soto, où le koan n'intervient pas. Maître Deshimaru disait le koan, dans le Soto Zen, c'est la posture de Zazen elle-même. Et dans la vie quotidienne, c'est la vie elle-même qui sert de koan. On n'a pas besoin de rajouter des énigmes ou des choses à comprendre en plus, des problèmes à résoudre. Il y en a suffisamment déjà de choses à résoudre et à comprendre en restant simple et naturel. Donc nous, on pratique la méditation qui est plutôt basée sur ce qu'on appelle la vacuité. Donc on ne fait pas intervenir ce processus et ce mode de koan.
C'est une méditation sans objet, pure vigilance, une pensée totalement fluide qui ne se fixe sur rien, qui ne s'arrête sur rien.
On en revient au laisser-passer dont je vous parlais tout à l'heure, hein, le laisser-passer. Alors que dans le bouddhisme Rinzai, du fait qu'ils sont bloqués sur un koan, ils ne pratiquent pas cette forme de laisser-passer. Il le pratique d'une autre manière, dont je ne pourrais pas vous expliquer parce que je ne suis pas adepte de cette pratique-là. Mais disons qu'il creuse, il creuse, il creuse tellement à essayer de résoudre la problématique qu'à un moment donné, leur cerveau, il n'est plus capable de trouver des réponses. Et c'est au moment, probablement, puisque je vous dis, je pratique pas ça, au moment où il lâche, que là, vraiment, il trouve une espèce de réponse et une révélation à la question qui était posée.
Ça me fait penser à Gurdjieff qui faisait faire des trucs sans sens, comme creuser des tranchées à ses disciples. Il creusait la tranchée et en fait, il faisait juste reboucher la tranchée sans plus de raison.
Ouais, sans but. Hein. Ouais. Voilà. Nous, on dit dans le zen, hein, c'est vraiment ce que je disais, un des piliers de la pratique, l'esprit mushotoku, sans but ni esprit de profit. On ne pratique pas zazen, donc cette méditation, pour atteindre l'éveil. Le zazen lui-même est la réalisation. Ce n'est pas un objet qui va nous conduire à pouvoir, on s'en sert pas comme quelque chose qui va nous c'est pas un outil qui va nous servir à quelque chose. On n'a pas comme but d'atteindre l'éveil. L'éveil arrive inconsciemment, naturellement, automatiquement, en adoptant les bienfaits de la pratique. C'est-à-dire la posture du corps, la respiration et le fait d'être capable de pouvoir laisser passer. Et là, l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil, se réalise. Mais Maître Deshimaru disait toujours, l'éveil n'est rien d'autre que la condition normale du corps et de l'esprit. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, de fantastique, avec de la lumière et des choses, ça appartient pas à ce domaine-là. Il faut arriver à trouver l'éveil dans la condition normale.
C'est l'histoire du but, pas de but, parce que si on a un but, ne serait-ce que d'avoir le but d'être éveillé, c'est déjà tendancieux en soi.
Bah oui, on n'est plus dans le laisser-passer. Dès qu'on a un but, on bloque et on s'attarde pour essayer d'atteindre cet objectif.
On est dans la séparation, la division. Ouais.
Et par extension, je reviens un petit peu au désir. Est-ce que le but et le désir ne sont pas un petit peu proches?
Oui, ça rentre un peu, on peut dire, dans la même famille. À partir du moment où on a un but, où on a un désir, on va faire en sorte d'atteindre ce but. Voilà, c'est un petit peu le même, voilà, c'est la même mécanique qui se met en place. Hein. Voilà, donc c'est tout un travail autour de ça. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est un des slogans, on va dire, du zen, sans but ni esprit de profit. Le maître zen qui nous enseignait, souvent on l'entendait, il parlait pas français, il était japonais, et il s'exprimait avec nous en une espèce de langue qu'on appelait le zenglish. C'était du zen mélangé à de l'anglais. Mais il avait deux, trois mots qu'il savait dire en français, et il disait, donc quand on était assis en zazen, il disait « pas bouger, pas bouger », parce que ça, c'est vraiment dans l'immobilité qu'on arrive le mieux à réaliser cette posture. Il disait « laissez passer les pensées », alors ça il arrivait, et il disait « sans but ni profit ». Les quelques phrases en 15 ans qu'il a enseignées en France, ce sont les quelques phrases qu'il avait réussi à apprendre en français.
Avec « rentrer le menton » aussi.
Voilà, « rentrer le menton ».
Ça vous a marqué en tout cas.
Ouais. C'était un peu comme des mantras.
Et alors, au cours de vos longues carrières de méditant, n'y a-t-il pas eu à quelques périodes, des périodes de doute, voire découragement, voire vous vous êtes dit « oh là là, c'est vain tout ça, tout ceci est tellement vain, c'est même pas la peine de se donner un effort », d'autant plus que les efforts sont proscrits puisque c'est laborieux et ça procède d'une volonté tendancieuse.
Non, l'effort dans les caractéristiques du bouddhisme, ce qu'on appelle les six paramitas, les six causes qui font qu'on peut atteindre l'éveil, l'effort occupe une place très importante. Il faut avoir cette notion d'effort, les choses ne se font pas sans effort.
Est-ce que justement il y a des périodes dans votre vie où ces efforts étaient un peu surhumains, ou justement vous avez été débordé par de la négativité, ou vous aviez dit « ah là là », ce qu'on appelle l'aquabonisme ?
Voilà, moi par rapport à mon expérience de vie, bien sûr comme tout le monde j'ai eu mes petits moments de malheur, mais par rapport à la pratique que je tente là de vous expliquer aujourd'hui, j'ai toujours eu une grande motivation. Et chaque fois que je me suis mis à pratiquer, bon après des fois il y a eu des zazen, le zazen c'est donc la posture, hein, qui ont été plus difficiles l'un que l'autre, suivant les pensées qui me traversaient à ce moment-là. Mais dans l'ensemble, j'ai toujours eu un grand, grand plaisir à pratiquer cette posture. C'est une posture dans laquelle je me sens confortable et presque dans laquelle je me sens le mieux. Je suis mieux assis en zazen que dans mon canapé à regarder la télé. C'est vraiment la posture dans laquelle je me sens le plus épanoui, où je me sens le mieux. Et dans la pratique tout au long de ma vie, j'ai jamais regretté de m'être engagé dans cette voie-là. Elle m'a toujours apporté ce qui me convient.
Et toi, Luc, as-tu douté à certains moments ? Tu t'es demandé, mais que fais-je dans cette galère ?
Moi, je suis comme Édouard, j'ai eu une foi absolue dans la pratique. On a eu l'avantage, l'un comme l'autre, d'être les disciples d'un grand maître qui nous a inculqué cette foi absolue. Il disait, il faut croire en son propre esprit, c'est-à-dire à sa dimension supérieure, à son être profond, qui est beaucoup plus réel, en fait, que les caractéristiques de l'ego, l'être profond. De l'homme est quelque chose de beaucoup plus réel, de beaucoup plus authentique que toutes les formes fantasmatiques de nos idées, de nos passions. Donc inévitablement, moi j'ai traversé des moments de crise et des moments de doute, mais je les vois pour ce qu'ils sont. En zazen, je me dis tiens, t'es encore en train de faire une crise là, mais t'inquiète pas, ça va passer. Et en fait, c'est à travers les crises qu'on progresse. On aimerait bien être tout le temps comme ça, là au septième ciel, dans la béatitude, mais en fait, plus on monte haut, plus on va tomber de très haut, tu vois. Et souvent, c'est dans les moments où on a l'impression de souffrir, d'être dans l'angoisse, que se fait le travail intérieur qui nous fait progresser dans la voie. Moi, je n'ai pas peur des crises. Je les vois venir et je les traverse. Et même encore maintenant, il m'arrive d'avoir des moments, pas de doute, mais de ressentiment. J'en ai marre, ça me fait chier. Mais bon, ce n'est pas grave. Je les vois venir et j'attends que ça passe.
Ils font partie du processus, mais tu ne les cultives pas plus que ça, quand même.
Sûrement pas, non.
Non, puisque ça ne fait que passer.
Oui. Voilà, c'est comme dans une relation avec la personne avec qui on vit, par exemple. Ça ne peut pas être tout beau, tout rose, tous les jours, tout au long de sa vie. Il y a des moments où il va y avoir des heurts, où on ne va pas être d'accord sur les mêmes sujets. Mais le principe fondamental, dans le fond, la base, on sait si on aime ou pas la personne avec qui on est. Et si on décide de continuer et de faire le parcours d'une vie avec, c'est qu'on l'aime. Moi, j'aime cette pratique et jusqu'à présent, je m'en suis jamais découragé.
il faut se rendre compte quand même que la voix, comme disait notre maître aussi, c'est encore une phrase qu'il disait en français, c'est pas du gâteau. C'est-à-dire que c'est une lutte sans merci contre l'ego. Et l'ego, il aime pas ça. Il y a des moments où il se rebiffe, il est pas content du tout, tu vois, parce qu'il veut reprendre le dessus. L'ego est, par définition, par nature, extrêmement despotique. Il veut exercer son emprise totale sur la personne. Donc il y a des moments où il est pas content et il le manifeste. Mais plus on s'enracine, on approfondit sa pratique, plus on est conscient de ce processus et plus on le maîtrise. On ne se laisse pas piéger. Mais il faut quand même dire qu'il y a des gens qui arrêtent de pratiquer au bout de 30 ans, de 40 ans, tu vois, où l'ego prend le dessus, où la fatigue, ça existe.
Oui, alors j'entends bien ce que vous avez dit sur l'effort. L'effort fait partie du processus, etc. Mais ce côté un peu laborieux, un peu ne peut-il être pas l'expression d'une volonté et donc de l'ego justement ? Qui veut donc méditer et pour quel but ? Quel but poursuit-il ce personnage qui veut méditer ? Ne serait-ce pas l'ego qui fait du zen en ce moment ?
Non. L'ego est peut-être le truc qui peut-être dans ma jeunesse m'a donné envie de commencer de rentrer dans cette voie-là. Je me faisais peut-être des illusions sur ce que pouvait être l'éveil, la réalisation, le bien-être que ça pouvait apporter. Mais l'ego est considéré comme quelque chose de moteur. C'est comme un désir. Il faut savoir le maîtriser et comment faire pour le maîtriser. Et la notion d'effort, elle doit intervenir dans le sens où les choses ne se font pas comme ça toutes seules. On est bien obligé de faire des efforts pour se lever le matin, pour faire ce qu'on a à faire dans la journée. Mais il faut qu'à un moment donné, il y ait une notion de plaisir, de bien-être. Sinon, tout devient laborieux à la fin et on devient pessimiste. On ne prend pas plaisir à faire ce qu'on fait. Et donc, c'est pas le but essentiel de la vie. Au contraire, il faut trouver quelque chose d'appétissant dans la vie. Sinon, ça devient fastidieux, laborieux et on s'emmerde, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que il faut trouver un équilibre entre l'effort qui est volontariste, qui vient de nous, et le fait de se sentir à faire les choses par plaisir. Un effort, il doit pas être tout le temps dans la notion de quelque chose qui nous paraît difficile et laborieux. Faut trouver dans les choses qu'on a à faire le plaisir qui peut nous apporter, la satisfaction de faire ce qu'on est en train de faire. Et l'effort qu'on a nécessairement besoin de faire quand on est en pratique de zazen, c'est l'effort de tendre la colonne vertébrale, de trouver du sens à la respiration, de redresser la posture. Voilà, ça nécessite un certain effort. Mais au bout d'un moment donné, cet effort, il est remplacé par le confort que la posture peut apporter. Et à partir de là, voilà, l'effort n'est plus quelque chose de difficile à supporter, puisqu'il y a cette notion, peut-être pas de plaisir, mais en tout cas de notion où on est là dans un moment où on se sent plutôt bien et que c'est agréable. Mais il a fallu amorcer tout ça en pratiquant l'effort de rentrer le menton, de se mettre en situation pour que tout se passe bien. Mais l'effort, oui, c'est quelque chose qui, tout au long de notre vie, jusqu'à un moment donné, peut-être on aura pu à fournir d'efforts. Mais là, je pense que, voilà, on sera peut-être passé dans l'au-delà, là, à ce moment-là.
L'effort juste, on parle d'effort juste, si je me rappelle bien.
Il n'y a pas que l'effort, il y a aussi la notion de patience. Il y a aussi une chose importante qu'on appelle le don. Il faut être généreux, mais pas que d'une notion d'argent, généreux de l'énergie qu'on amène à la vie. Par rapport à, je sais pas, des situations où on est en rapport les uns avec les autres. Là, quand je suis en train de vous répondre, j'ai l'énergie, la motivation et je me sens agréable et je sens que c'est quelque chose qui me semble extraordinaire, mais en tout cas, c'est de la participation. Et c'est agréable et il faut trouver aussi le sens de ce qui rend les choses agréables. Après, si je faisais autre chose de désagréable, la sagesse consisterait à me dire: est-ce que cette chose qui est désagréable, est-ce qu'il faut que je poursuive dans ce sens-là? Si ma sagesse me communique et me fait comprendre que c'est pas nécessaire, à ce moment-là, j'arrête et je passe à autre chose.
Et comment reconnaître cette part des choses entre une espèce de patience et au contraire une inertie à faire quelque chose qui n'est pas bonne?
Ben après, il faut avoir son libre arbitre et puis il faut avoir une certaine sagesse pour apprendre à savoir faire le distinguo entre les choses.
Le distinguo est d'autant plus facile que le mental est apaisé, peut-être aussi grâce à la méditation, si je ne m'abuse.
Oui, puis c'est l'expérience aussi. On sait ce qui peut nous amener et nous entraîner dans des voies de mauvaise direction. Et quand on sent qu'on met le pied dans cette voie-là, On se dit, c'est pas la peine de poursuivre, il vaut mieux que j'interrompe et que je passe à autre chose, avant que je sois débordé, qu'après j'ai eu du mal à me séparer ou à me débarrasser de ce genre d'attitude. Au début, moi, je me souviens, je vais vous raconter une histoire, j'étais tout le temps un petit peu à regarder autour de moi s'il n'y avait pas quelque chose par terre à récupérer, à trouver, quelque chose un peu comme chiné, quoi. Et mon esprit a fini par être occupé tout le temps. J'avais tout le temps cet état d'esprit. Et je pouvais pas me déplacer quelque part sans être en train de me dire, tiens, va voir un petit peu s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à récupérer ou à chiner. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que mon esprit était quand même un petit peu trop omnubilé par cette façon de faire. Et il a fallu que j'apprenne à me débarrasser de ça. Et donc, j'ai fait un effort sur moi-même pour ne pas être dans des situations où j'étais amené à aller foire, à fouiller, à regarder ce qui se passe. Et petit à petit, j'ai réussi à me débarrasser de ça. Et je me suis senti dans quelque chose de libérateur. Et maintenant, je peux me déplacer un peu n'importe où. Je suis plus là avec le regard qui se porte en essayant de me dire, voilà, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire ou à récupérer. Et là, je me suis senti vraiment, j'ai compris que c'était un peu ça la vie, quoi. Arrêter de fouiller, de vouloir chercher, d'attraper quelque chose, hein. Être plutôt libre et de se sentir plutôt, débarrassé de ce genre d'attitude.
Et cette libération, est-ce que tu arrives à en faire une connexion de cause à effet avec ta pratique de méditation? Que tu étais prêt à te libérer? Parce que je dis ça, c'est parce que, en parlant de ma propre expérience, je trouve que c'est tellement difficile de changer. On ne m'arrête pas de me dire « Oui, sois conscient de ce que tu es, ça finira par tomber tout seul. » Et en fait, je vois que... Ou alors j'ai un mental particulièrement résistant et robuste et tortueux, mais en tout cas, je ne peux que constater que j'ai des travers et ils sont toujours là et je te trouve que pas grand-chose ne change. Voilà.
Mais c'est pour ça que nous, on a la chance de pouvoir se reposer sur une pratique. Cette pratique de zazen, cette méditation assise... Parce que étudier l'ego avec l'ego, c'est un peu difficile, c'est un petit peu antinomique. C'est comme essayer d'attraper sa main droite avec sa main droite. On pourra difficilement y arriver. Mais le fait de se mettre en situation de pratique et de posture, de méditation, de zazen, c'est le travail va se faire indépendamment de nous, quelque part.
Tout seul, presque.
Ça va se faire inconsciemment, naturellement, automatiquement. Si nous, on fait l'effort de prendre cette posture et de faire ce qu'il faut faire pour que ça soit la bonne posture et la bonne attitude, le zazen, à un moment donné, il va lui aussi faire son travail et il va nous libérer des choses qui nous encombrent. Et il n'y a plus besoin de le faire consciemment. Il n'y a plus besoin d'avoir cette volonté de vouloir atteindre l'éveil. L'éveil va se réaliser de lui-même. Vous comprenez le système ?
Oui, oui.
C'est l'esprit Mushotoku, sans but et sans profit. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait rien. On est dans l'attitude qui fait qu'on pratique la bonne posture et on fait l'effort de le faire. Jusqu'au moment où ça ne devient plus un effort, comme je vous disais, à un moment donné où vous vous sentez dans une posture et une situation confortable et agréable.
Oui, on pourrait dire, pour employer une formule un peu brillante, on pourrait dire, par l'effort, on arrive au non-effort. Le sans-effort, l'inconsciemment, naturellement, automatiquement, le lâcher-prise, vient par un effort. On ne peut, dans le zen, on dit tout le temps, il faut embrasser les contradictions. Parce que les contradictions, les paires de contradictoires, ce sont des inventions de notre esprit. Et dès qu'on pose une idée, comme l'effort, ou comme le non-effort, il faut aussi voir son contraire. Il faut embrasser les contradictions. On ne peut pas choisir un côté et éliminer l'autre. Maître Deshimaru disait, c'est comme les deux ficelles du cerf-volant. Il faut tenir les deux ficelles pour que le cerf-volant vole bien.
Je ne veux pas parler de moi, mais néanmoins, je ne suis pas fidèle. J'ai pénétré 35 sectes. Et les deux que j'ai retenues, c'est une bouddhiste petit véhicule qui était très volontariste, avec un « you have to work very hard for your own salvation et donc, c'est moi-même qui, par un effort volontaire, va m'en sortir et sans l'aide de ma volonté, va me sortir de l'auberge.
Oui, mais c'est comme je vous disais, cette attitude, elle consiste à essayer d'attraper sa main droite avec sa main droite ou d'étudier la libération avec l'ego.
Et puis l'autre, c'était de l'hindouisme Advaita, dans lequel eux, les deux mamelles de l'hindouisme Advaita, c'est rester tranquille et qui suis-je, sachant que si je suis quelque chose, pourquoi irais-je faire un effort pour être ce que je suis déjà? Et donc l'effort est plutôt proscrit, enfin l'effort du non-effort, hein, comme disait le taoïste.
Oui, c'est le non-agir.
Voilà, c'est ça, c'est l'inaction qui montre le chemin. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'insister un petit peu sur le fait de ce côté laborieux sur lequel moi personnellement je buta. Et si vous, par une saine mesure dans l'effort, vous avez su ne pas être rebuté par ce côté un peu fastidieux, un peu laborieux, quel bel exemple vous êtes pour moi.
On va ramener ça à quelque chose de un petit peu où les personnes pourraient tous à peu près comprendre, parce que là il s'agit de méditation, de posture, peut-être qu'on n'a pas l'habitude de prendre et tout ça, donc c'est un petit peu voilà, faut être un peu spécialiste, mais par contre c'est ouvert à tous, hein. Mais vous pratiquez ça dans le sport, hein, ou par exemple plutôt dans le yoga, on va dire que les gens connaissent et sont un peu plus familiers avec ça. Les postures de yoga et qu'on prend et qu'on utilise, ça se fait pas comme ça, hein. Ça, voilà, on débute, on n'est pas souple, on n'est pas vraiment habilité à le faire, c'est pas facile pour tout le monde. Et progressivement, petit à petit, voilà, quand on fait un sport ou de la danse ou un sport d'aïkido ou du football ou n'importe quoi, l'effort intervient. Et après, on se rend compte, après la séance ou après un match, hein, ou après, voilà, ce qu'on a fait, qu'on a ce sentiment de bien-être, le corps a participé. C'est une pratique, hein. C'est pas quelque chose qui est uniquement réservé à la partie mentale de l'être humain, au cerveau, à tout ce qui est intellectuel. Il faut que le corps soit dans la spiritualité du corps. Il faut faire vivre le corps. Et c'est un équilibre entre le corps et l'esprit qui permet de pouvoir réaliser ce qu'on appelle la voie. Et souvent, on est trop intellectuel ou on est trop matérialiste, hein. Et le zen consiste à rééquilibrer un petit peu ces deux extrêmes, hein, comme disait Luc, embrasser les contradictions. Et par exemple, tout le monde se rendra compte, et tout le monde a fait l'expérience, qu'après une séance de sport ou de gymnastique ou de danse ou de n'importe quoi, on se sent mieux. Et bien après une séance de zazen, c'est pareil, on se sent mieux, on est bien. L'esprit est moins compliqué, on est moins dans le conflit, on est moins dans le questionnement. Et on peut aborder la vie d'une manière beaucoup plus simple et facile et agréable.
Ouais, je voudrais insister sur un truc qu'a dit Edouard et qui pour moi est très très important et qui est une caractéristique du zen et peut-être de la spiritualité orientale. C'est l'importance qu'on accorde au corps. Chez nous, dans nos écoles, dans nos traditions, il n'y a absolument pas le mépris du corps qu'il peut y avoir chez certains chrétiens. Maître Deshimaru disait souvent « pensez avec le corps ». Il y a un aspect physiologique dans la pratique de zazen qui est très très important. À la limite, on pourrait dire que le corps est peut-être plus pur que l'esprit. L'esprit peut être tordu, le corps n'est pas tordu, le corps sait ce qui est bon pour lui. Quand tu fais zazen, tu t'en aperçois. Et c'est vraiment une pratique, là encore, c'est une contradiction qui pour nous n'existe pas. Il n'y a pas d'un côté le corps et de l'autre côté l'esprit. C'est corps et esprit unifiés. C'est une posture du corps-esprit, de l'entité corps-esprit, en complète unité. On ne peut pas se permettre de rejeter le corps et de mépriser le corps. On pratique avec son corps.
Par exemple, là, on passe un moment ensemble, c'est agréable, on parle du zen, de la spiritualité, des choses qui tournent autour de ça. Mais on ne peut pas dire que c'est le zen. Le zen, c'est la pratique, hein, la posture, l'assise. Hein. C'est comme, on a une image qui nous dit ça dans le zen, le tableau d'un gâteau de riz n'apaise pas la faim. Voilà, on pourrait parler indéfiniment du zen et de ce que ça peut apporter, de ce que ça peut être comme bien-être ou n'importe quoi, toutes les questions que vous me posez. Mais tant qu'on ne s'est pas mis dans la situation de l'assise et qu'on n'a pas rentré le menton, tendu la colonne vertébrale, tant qu'on n'a pas patienté et fait les efforts qu'il faut, on sera à côté. Ça sera juste un petit peu des espèces de compréhension intellectuelle. Mais la pratique du corps doit être à un moment donné abordée.
Je reviens un peu sur ce que dit Edouard, je ne voulais pas trop intervenir, puis finalement ça me stimule et j'ai envie de parler. Il y a un aspect très très important du zen, et surtout du zen de Deshimaru, c'est l'expérience intime. L'idée qu'exposait Edouard là, du gâteau de riz. Le zen, ce n'est pas une théorie, pas du tout, il n'y a pas ni dogme, ni théorie, ni rien du tout, c'est une expérience intime. Une expérience intime de cette posture, du corps-esprit.
Et après, cette posture, elle se décline dans la vie de tous les jours. Bien sûr, il y a cette séance un peu réservée qui correspond à une heure, on va dire. Une séance de zen, c'est à peu près une heure et quart. Mais après, ça se décline sur notre vie, dans la vie quotidienne de tous les jours. Et après, on apprend à contrôler, à pratiquer. La concentration est présente dans la vie quotidienne. Le lâcher-prise est présent dans la vie quotidienne. La sagesse est présente, entre guillemets, la sagesse, dans la vie quotidienne. Et après, ça ne nous empêche pas de faire un pas de travers de temps en temps et se dire « Oh merde, là, je n'ai pas fait ce qu'il faut ». Donc, on corrige un peu, comme on corrigerait sa posture quand elle commence à être un petit peu bancale. Hop, on rectifie, on corrige et on se réaligne. Comme on réaligne la colonne vertébrale quand on voit qu'elle n'est pas droite.
Ultime question avant de se quitter. Y aurait-il des contre-indications à méditer un tantinet trop? Par exemple, quelqu'un qui serait à ce point enthousiasmé par le zen se mettrait à méditer tant et plus. Et y aurait-il un danger d'éthérisation et voire de décollage stratosphérique?
Ouais, on en a eu. On a eu des gens qui sont venus et qui d'un seul coup ont une espèce de révélation et qui voulaient pratiquer zazen H24. Hein. Et non, ça produit pas le bon effet en général. Hein. Les personnes sont vite. Déjà, on a la chance aussi que la posture de zazen, au bout d'un moment, on pourrait pas tenir physiquement, physiologiquement. On peut pas rester assis en zazen 8 heures d'affilée, hein, parce que ça fait mal aux genoux, parce qu'il y a des tensions qui arrivent au bout d'un moment, tout ça. Donc on préconise le fait de faire du zen et le zazen, cette posture. Une fois par jour, ou alors une ou deux fois par semaine pour ceux qui ne peuvent pas le faire régulièrement à ce rythme-là, et que les séances ne durent pas plus de 2 fois une demi-heure. Et après, quand on fait les stages comme on vient de faire, là, organisés ce week-end, là, on pousse un petit peu le curseur et on fait zazen 3 ou 4 fois par jour. Mais voilà, c'est un contexte très précis et particulier. On est dans un environnement et un cadre spécial, le fait qu'on soit tous ensemble et qu'on soit rassemblés pour cette journée ou pour ce week-end-là. Mais en général, non, on évite et on ne donne pas le conseil aux gens de pratiquer du zen 24 heures sur 24 assis en méditation. Non, ça ne procure rien de plus. Voire même, c'est vraiment quelque chose de dangereux.
Qui fait l'ange, fait la bête, disait Pascal.
Oui, voilà, c'est à peu près ça. Voilà.
Dans le Zen Rinzai, ils ont un petit peu cet aspect... forcenés, ils arrivent au Satori,
un
à l'éveil.
Un peu dans les extrêmes.
Par les extrêmes, ils font des séchines où ils font zazen des fois 48 heures d'affilée. J'ai des camarades qui sont dans le Zen Rinzai, ils tombent dans les pommes. Et c'est quand vraiment, ça s'acharne sur leur koan. Et c'est juste, eux, dans leur école, c'est à travers ce travail de forcené que tout d'un coup tout lâche. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, on est beaucoup plus dans la condition normale.
Voilà, vous me parliez tout à l'heure de l'octuple sentier. L'octuple sentier, d'après le Bouddha, donc, qui a créé cette voie et qui l'a enseigné tout au long de sa vie, consistait à dire qu'à la fin, que la voie du milieu, voilà, c'est ça, il faut arriver à suivre la voie du milieu. Donc un peu de désir et un peu de sagesse, les deux. Et voilà, ça consiste à pouvoir passer à peu près tout au long du parcours de sa vie sans être trop dans les extrêmes. Mais il faut pas, comme disait Luc tout à l'heure, il faut pas non plus avoir une vie tiède. Il faut être capable de, quand on fait une chose, le faire entièrement et d'être à fond dans ce qu'on fait. Mais la voie du milieu, hein, quand vous me disiez les gens qui resteraient ou qui passeraient leur vie à être que dans cette attitude de vouloir méditer, de vouloir être tout le temps dans cet aspect, de cette concentration. Non, il faut aussi que le zen soit simple et naturel dans la vie quotidienne.
Je vous remercie donc Edouard Bagraski et Luc Boussard d'être passés et d'avoir parlé sans forfanterie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation.
Non, en tout cas, avec grand plaisir. J'étais un peu fatigué arrivant, mais ça a été un plaisir de passer une heure avec vous.
Merci Louis.
À bientôt.
Au revoir.
À bientôt.
Interview. L'interview du jour.